Eh bien, chers amis, nous arrivons déjà au dernier message dans cette soirée. Il y aura encore le message demain matin qui sera la suite de ce que nous avons vu ce matin. Mais ce soir, nous avons à cœur de vous présenter des vérités toutes pratiques. Comment quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur, qui a donc compris qu'elle est fiancée ou qu'il est fiancé au Christ, doit-il agir quand, d'une façon tout à fait normale et naturelle, il pense ou elle pense au mariage? Je dis bien quelqu'un qui est au Seigneur et qui a bien compris que se donner au Seigneur, c'est s'engager pour lui et c'est désirer faire sa volonté dans tous les domaines de l'existence. Et si quelqu'un peut vous comprendre, c'est bien celui qui est en Dieu, a consenti à se faire homme, lui le Créateur, et à s'abaisser, comme nous l'avons vu tout à l'heure, plus bas que les anges, un peu inférieur aux anges, à cause de la passion de la mort, parce que les anges ne pouvaient pas mourir. Alors, ce Fils éternel de Dieu nous a aimés assez pour ne pas se contenter d'avoir donné par Moïse des commandements à l'homme, une loi de 10 commandements, mais il a voulu venir en tant qu'homme vivre ce que Dieu désirait de l'homme. Être au fond l'exemple de l'homme comme Dieu le désirait et avait établi son dessein dans l'amour éternel. Alors je relis quand même ce passage que j'ai lu seulement à la fin de la soirée hier. Dans cette journée où nous eûmes un terrible combat contre les puissances spirituelles de méchanceté qui auraient voulu troubler l'œuvre de Dieu dans le camp de plusieurs manières, mais nous avons connu qu'il était vaincu. Alors, je lis ce passage pour que vous l'ayez bien en mémoire. Sans contredit, chapitre 3 de la première à Timothée, verset 16, sans contredit, le mystère de la piété, c'est-à-dire de la relation de l'homme avec Dieu, est grand. Et ce mystère aussi est grand dans le mariage. Celui qui a été manifesté en chair, c'est Dieu le Fils, mais qui a revêtu un corps d'homme, et c'est cela, il a été manifesté en chair, au milieu d'hommes de chair, comme nous, justifié par l'Esprit. Vous savez que il a été crucifié. On a prétendu, mais si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix. Il n'est pas descendu. Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout dans le rachat de l'humanité. Mais, le matin de Pâques, Dieu, par le Saint-Esprit, justifiait le crucifié en le ressuscitant d'entre les morts et montrait bien qu'il était le Fils de Dieu. Donc il a été justifié en esprit, ou par l'esprit. Il a été vu des anges, et c'est le message que nous avons essayé de donner aux enfants tout à l'heure. Non seulement les enfants ont des anges et qui montent et descendent et qui les préservent et qui voient la face du Père, mais Jésus, en tant qu'enfant, avait aussi des anges et il a été vu des anges dans la crèche et puis tout au cours de son ministère, on a vu pour aller en Égypte, pour revenir d'Égypte. Puis on le voit aussi en Gethsémané, à la fin de son ministère, quand il est accablé et que les disciples sur lesquels il comptait un peu pour la prière se sont endormis. Un ange est venu pour le fortifier. Alors que devant le péché du monde, lui qui avait une âme si sainte et qui avait en horreur le péché, il réalisait qu'il allait être fait péché pour nous. Il allait être traité comme le péché même, comme si lui-même était le pécheur, comme si lui-même avait commis tous les crimes qu'un homme peut connaître en pensée, en action, en parole. Alors son âme sainte frémissait. Et c'est alors qu'il disait, oh, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Quand on est saint, le péché fait horreur. Et l'âme sainte de Jésus avait de la peine à supporter cette pensée, je vais être fait péché pour nous. Mais s'il aimait vraiment les hommes et qu'il voulait régler cette question du péché pour que nous en soyons libérés et délivrés, il devait mourir. Alors mes amis, si vous avez été aimé d'un tel amour, comprenez que vous devriez vivre dans une reconnaissance infinie et croire que l'œuvre de la croix ne vous évite pas, quand vous y croyez, seulement l'enfer éternel, mais que l'œuvre de la croix est quelque chose de tellement grand et de tellement puissant que dans votre vie présente, vous connaîtrez la puissance de la vie éternelle, afin que vous puissiez tout souffrir, même dans la joie, et traverser les plus grandes épreuves en restant dans une paix totale. Et aussi que vous pourrez prendre des décisions qui seront à la gloire de Dieu dans votre vie de tous les jours. Que ce soit dans le choix d'un métier, d'une carrière, ou que ce soit en vue d'un mariage. Car c'est Dieu lui-même qui a dit un jour, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et il y a dans l'Écriture trois passages qui nous donnent les raisons de l'acte même sexuel, mais qui se fait dans le mariage. Croissez et multipliez. Donc, cela montre qu'il n'y a pas de péché et que le premier péché n'a pas été un acte sexuel, puisque c'était un ordre de Dieu que l'homme s'unisse à sa femme et que le résultat de cette union qui les faisait une seule chair, c'était l'enfant. C'est Dieu qui a voulu cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et une seule chair, c'est l'enfant. Conséquence de l'union totale. Maintenant, quand Dieu a amené à Adam cette femme qui s'appelait Ève, quand Adam s'est réveillé du sommeil dans lequel le Seigneur l'avait plongé, ce qui m'a toujours fait dire que celui qui a fait la première anesthésie, c'est Dieu. Donc il n'est pas pour la souffrance. La première anesthésie, c'est Adam qui l'a eue, et il y a eu cette opération de la côte. Il a refermé la côte, la place avec de la chair. Et quand Adam a vu, après avoir contemplé tous les animaux, et n'avoir trouvé aucun qui corresponde avec lui, eh bien, il s'est écrié sept fois celle-ci, et os de mes os et chair de ma chair. Quelqu'un a dit qu'il aurait dit mon os quand il a trouvé Ève. Ça correspondait. Il retrouvait son os. On m'a demandé si Dieu avait de l'humour. Bien sûr qu'il en a. Et si vous n'avez pas d'humour, je crains bien que vous n'alliez pas au ciel. Il y a des gens qui ne savent pas rire normalement. On entend souvent dire, mais Jésus, il a pleuré. On n'a jamais vu rire. Ils n'ont jamais lu les évangiles. Un Jésus qui disait, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point. Vous croyez qu'il leur faisait une tête épouvantable? Les enfants auraient fui, mais il les accueillait, il avait l'accueil, il avait le sourire. Il les prenait dans ses bras. Alors, apprenez à connaître le Seigneur. Alors quand il l'a vu, il a dit sept fois celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Ça c'est la communion. La relation sexuelle exprime aussi une communion totale entre deux êtres et ce n'est pas nécessairement qu'il y aura un fruit à cette relation d'amour. La femme ne sera pas nécessairement enceinte parce que dans le mariage, elle a, comme ça se dit, fait l'amour avec son mari. Non. Mais il ne faut jamais exclure la chose. La relation sexuelle peut avoir comme conséquence l'enfant. Et voyez-vous, quand on a eu des parents chrétiens, on sait qu'ils ne se sont pas unis sans avoir prié. Et la prière ne les a pas empêchés de s'aimer profondément. C'est pourquoi je vous le disais hier, le vrai mariage, c'est un mariage à trois. Le Seigneur est de moitié entre nous. Et ce n'est pas une chose impure quand cela a lieu dans les règles que le Seigneur a lui-même établies. Maintenant, vous avez un troisième passage. J'ai cité le chapitre premier de la Genèse, à la création. J'ai cité le chapitre deuxième, quand Ève a été créée et présentée à Adam. Et puis maintenant, je cite l'apôtre Paul dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, où, parlant du mariage, il dit au couple, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que pour un temps, ne vous privez pas l'un de l'autre, mais il faut qu'il y ait accord. Et là, on y a vu la détente physique. La relation sexuelle peut apporter une certaine détente physique, mais toujours sous le regard de Dieu. Toutefois, lisons-nous, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc c'est très clair. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et c'est là que vous avez ce verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. » Et c'est pourquoi, dans les retraites que nous avons à Châteauguay, nous annonçons toujours qu'il n'y a pas de chambre à deux lits et que, évidemment, pour un peu de temps, eh bien, le couple sera séparé, mais uniquement pour vaquer à la prière, pour être seul avec Dieu. Et je vous cite encore un autre passage qui est capital parce qu'il résume ce qu'est l'homme tout entier, tel qu'il a été créé par Dieu, à son image. Il est lui-même une trinité, et au chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons ceci au verset 23e, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, dans un mariage, il faut envisager donc l'homme tout entier, qui est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Comme il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et alors, cela va nous aider à comprendre bien des choses. J'en viens tout de suite à cette question pratique. Voilà une jeune fille qui pense au mariage. Que va-t-elle faire? Aller dans une discothèque pour y rencontrer qui quoi? Si vous appartenez au Seigneur, vous ne péchez pas en désirant de vous marier. Mais, au lieu de choisir vous-même, vous allez en faire un sujet de prière et dire au Dieu, c'est toi-même qui as formé la femme pour l'homme, tu m'as fait aussi pour un être, mais je ne le connais pas, mais je veux te suivre. Alors, si tu le veux, Seigneur, ben je te demande de me faire rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi et qui m'est destiné. Si vous ne faites pas entrer le Seigneur dans votre pensée au sujet du mariage, si vous pensez que vous pouvez faire cela tout seul, vous vous trompez. Et je vous dirai simplement ces quelques points. Vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. Alors, la première chose, si vous êtes au Seigneur, il est exclu que vous épousiez quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ou qui n'est pas au Seigneur, qui est inconverti. Et ne faites pas du mariage un moyen d'évangélisation. En vous disant, mais moi je suis au Seigneur, mais j'épouserai quelqu'un qui ne l'est pas, mais je l'amènerai au Seigneur. Ça, c'est la ruse du diable. Ça, c'est la tentation. J'ai parlé tout à l'heure, si vous avez écouté, des tentations. Mais ça a l'air d'être une bonne pensée. On nous dit qu'il faut évangéliser. Eh bien, je veux employer peut-être certains de mes charmes pour amener quelqu'un qui me plaît, mais qui n'est pas au Seigneur. Je sais qu'il n'est pas au Seigneur, qui n'est pas régénéré, mais je l'amènerai. Et c'est là la tentation. Et c'est là que vous devez résister. Parce que toute la parole nous enseigne que nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. C'est absolument clair. Et ça doit être arrêté dans vos cœurs. Plutôt ne pas me marier que d'épouser quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. Je ne dis pas que dans sa miséricorde, Dieu n'amènera pas cette personne au Seigneur. Si vous vous êtes humilié d'avoir désobéi, mais vous ne pouvez pas demander la bénédiction de Dieu en commençant par une désobéissance. Je vous lis au chapitre 6 de la deuxième aux Corinthiens, ce passage, verset 14 du chapitre 6 de la deuxième aux Corinthiens, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et quand on se marie, eh bien, on se met sous un joug. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est Satan, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, vous savez que ce n'est pas la pensée de Dieu que vous épousiez un non-croyant. Mais vous me direz, mais nous sommes sur la terre et nous rencontrons bien des personnes. Eh bien, la personne que vous rencontrez, ne pensez pas tout de suite, eh bien moi, cette personne-là, je l'amènerai au Seigneur en vue du mariage. Non. Vous pouvez l'évangéliser, c'est évident. Mais la fréquenter régulièrement, ça va vous créer des problèmes. Vous pouvez être sûr de cela. Parce que celui qui n'est pas converti, La première chose qu'il demandera à une jeune fille qui lui plaît, c'est de coucher avec elle. Vous pouvez être à peu près sûr de ça. Ou s'il voit que vous êtes une personne bien, réservée, et qu'il n'aura pas tout de suite ce que lui désire, eh bien, il rusera, il saura patienter, mais il cherchera à vous entraîner. Alors, ne vous laissez pas prendre. Mais maintenant, si vous rencontrez un chrétien, ça ne suffit pas de dire, eh bien voilà, c'est un enfant de Dieu, il a la même foi que moi, nous avons le même Seigneur, je peux me marier avec lui. Non, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit un chrétien, ça c'est vrai, un vrai croyant et quelqu'un qui aime le Seigneur. Alors vous aurez, sur le plan de l'esprit, qui est uni à Dieu, vous aurez une communion. Mais pour le mariage, il faut plus que cela, parce que nous n'avons pas seulement un esprit, nous avons une âme. Et l'âme, c'est le moi, c'est la personnalité. Alors, s'il n'y a pas correspondance de ce côté-là, si vous n'avez pas les mêmes goûts, quand même, s'il n'y a rien de commun entre vous, eh bien, vous devez y réfléchir à deux fois. N'avancez pas plus. Soyez simplement frères et sœurs. Dans votre relation, ne dépassez pas cette fraternité. Le troisième point, c'est que nous avons un corps. Alors, si, au point de vue chrétien, il est vraiment chrétien, il aime le Seigneur, au point de vue des goûts, bien vous sentez que vous pouvez partager, que vous ne serez pas toujours en conflit. Si vous, vous n'aimez pas du tout les courses de montagne, sortir, et puis que vous savez que lui, c'est tout ce qu'il aime, mais que vous, c'est d'être dans une chaise ou dans un fauteuil et tricoter, bon, il n'y aura pas beaucoup de communion entre eux. Puis, chaque fois qu'il voudra partir, vous lui ferez la scène. Non. Il faut aussi qu'il y ait une communion entre vos âmes. Et mais maintenant, on a un corps. Et alors, ben vous me direz, ben c'est pour ça qu'il faut cohabiter pour savoir si ça correspond. Non, faites confiance au Seigneur. Parce que si même au point de vue du corps, il vous plaît, hein, mais est-ce qu'il vous plaira encore dans 2 ans, dans 3 ans? On m'a bien amusé, j'ai été opéré l'autre jour de la cataracte. Et puis, un de mes amis que vous avez vu m'a raconté que depuis que lui aussi a été opéré de la cataracte, il avait vu qu'il avait des rides, ce qu'il ne voyait pas avant. Puis alors, quelqu'un lui a dit, oh, vous savez, quand on est opéré de la cataracte, ça donne des rides. Vous voyez l'humour, ça donne des rides. Mais pourquoi ça donne des rides? Il ne voyait pas avant. Puis tout d'un coup, on voit mieux, puis on voit qu'on a vieilli, on a des rides, pas parce qu'on était opéré de la cataracte. C'est pas la cataracte qui nous fait avoir des rides. C'est le vieillissement. Mais on se voit mieux, évidemment, après l'opération, si ça a réussi. Mais c'est très important, cela. Mais elle me disait, mais je l'aime bien, mais il a la peau grasse. Alors, elle avait une espèce de répulsion avant le mariage. Alors, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ça corresponde dans tous les domaines. Une autre jeune fille que je connais bien m'a écrit un jour de Londres en me disant, Mais voilà, j'ai rencontré, c'était un homme très bien, que je connaissais aussi, qui était directeur d'une grande usine de boîtes de conserve en Italie, et qui aimait cette jeune fille, puis il a su qu'elle était à Londres, il est allé la trouver. Et puis la jeune fille m'écrivait, mais il est très gentil, je l'admire, c'est un chrétien, mais j'ai l'impression d'aller à la boucherie. Alors, si le mariage, c'est aller à la boucherie, c'est trois fois non. C'est pas ce qu'Adam a dit ou ce qu'elle a pu dire. Alors, faites attention. Il doit y avoir correspondance. Mais faites confiance au Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait correspondance dans les trois domaines, et quand même un certain attrait physique qui joue. Mais sachez attendre. Et c'est pourquoi il y a les fiançailles. Réfléchissez. Ayez jusqu'au moment du mariage des relations fraternelles. Cherchez à prier ensemble. Si vous ne pouvez pas prier ensemble, bien je ne vois pas vraiment qu'il y ait une union possible. Car la prière à deux, c'est une grande grâce. Je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas prier, s'exprimer, mais quand même, quand cela peut avoir lieu, c'est une bénédiction. Il est dit, Dieu va mieux qu'un. Ils ont un bon salaire de leur travail. Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête. Je dirais encore ceci. Quand on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Un terrain. Et dans l'Écriture, il y a deux terrains dont il nous est parlé. Lesquels? Le roc et le sable. Le roc, c'est qui? C'est le Christ. Le sable, ah ben, on peut construire une maison sur le sable. Tant qu'il n'y a pas de tempête, la maison sur le sable a l'air solide, mais ce qui révèle le fondement, c'est justement la tempête. Jésus nous a donné un enseignement dans le chapitre 7 de Matthieu. Alors, il est donc question que quand on veut se fiancer, c'est avec un enfant de Dieu. On s'unira sur le roc. Parce que une fois qu'on a le terrain, il nous faut les matériaux. C'est la deuxième chose, les matériaux. Mais il faut des matériaux qui correspondent. C'est pourquoi vous devez demander au Seigneur qu'il y ait correspondance dans ces trois domaines que je vous ai soulignés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on va construire soi-même ou bien est-ce qu'on prendra un architecte? Je crois que dans les vrais mariages, on prend un architecte. Et qui est l'architecte? Le Seigneur. Le Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'architecte. Car nous, nous pourrions faire beaucoup d'erreurs. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est le psaume 127. Alors voilà ce que la Bible nous enseigne. Et ce temps des fiançailles où l'on se rencontre, où l'on ne vit pas encore ensemble, c'est un temps qui nous permet de connaître par le Saint-Esprit la maîtrise de soi.
en vue du jour du mariage. Sans cela, alors qu'est-ce que c'est? J'ai connu des personnes qui ont dit une fois à un serviteur de Dieu, je sais que je vais vous faire beaucoup de peine, mais je veux cohabiter. Bon, bien alors, on est conscient qu'on fait de la peine à quelqu'un qui a enseigné la parole. Mais je ne veux pas être hypocrite. Alors le serviteur ne veut pas non plus être hypocrite. Ce n'est pas parce qu'on ne se réjouit pas quand même des gens ont cohabité ensemble, mais qui ont franchement désobéi au Seigneur. Eh bien, ce n'est pas à cause de ça qu'on ne veut plus avoir de relation avec eux. On se réjouit si un jour ils se mettent en règle et se soumettent aux autorités. Mais ce que l'on voudrait, c'est qu'il y ait de la discrétion et qu'on ne fasse pas comme si on n'a jamais été ensemble. Et que la nuit prochaine, eh bien, c'est le grand mariage. C'est la nuit, la première nuit. C'est du mensonge. On se réjouit que l'on se mette en règle avec les autorités, tant qu'elles existent, mais on ne peut pas, parce que ce serait aussi de l'hypocrisie. Manifester une communion à tout ce qui se fait, parce que ça va encourager les autres à continuer ainsi. Eh bien, mes amis, moi je vais passer, je vais disparaître, quoique j'aimerais disparaître avec vous à l'enlèvement de l'Église, hein, être pris par le Seigneur. Mais quand on a un certain âge, bien forcément, on sait qu'un jour, si le Seigneur n'est pas venu, on doit mourir. Alors nos paroles, mes paroles, c'est des paroles d'un mourant. Mais je m'adresse aussi à des mourants, parce que vous aussi, d'un jour à l'autre, il n'y a pas besoin d'être âgé, vous pouvez partir. Alors je vous en supplie. Lisez la parole, instruisez-vous dans les Saintes Écritures. Et vous saurez avec qui vous devez frayer. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et hélas, aujourd'hui, on s'est, comme le dit l'Écriture, habitué aux choses iniques. Et quand vous voyez le divorce, tout, eh bien c'est lamentable, parce que les enfants en souffrent, c'est un déséquilibre. Alors mes amis, revenons à l'Écriture, et si vous avez compris quelque chose de ces fiançailles avec Christ, restez fidèles au Seigneur. Le Seigneur vous aime. Le Fils unique de Dieu a voulu vivre sur la terre. Et il peut vous comprendre. Il s'est abaissé. J'ai quelquefois souligné, peut-être même dans un des camps ici, les degrés de son abaissement, de condition divine. On a compté 7 degrés d'abaissement. Le premier, c'est que il a été conçu du Saint-Esprit, mais la conception. On ne peut pas l'expliquer. Mais celui qui était de condition divine a accepté de devenir une substance informe dans le sein de Marie. C'est ce qu'il est dit dans le psaume 139. Tes yeux ont vu ma substance informe. Et pendant 9 mois, il s'est formé dans le sein d'une femme ce corps de Jésus. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, lisons-nous dans les Hébreux, mais tu m'as formé un corps, de sorte que le Seigneur a été formé dans le sein de Marie. Et il est né, comme il l'a dit, il est né d'une femme. Marie. Première abaissement. Deuxième abaissement, sa naissance. Figurez-vous qu'il naît devant les anges qu'il a créés. Et on le pose où? Dans une crèche. Il naît dans la pauvreté. Troisième abaissement du Seigneur, comme il est un enfant, il est éduqué, son éducation. Et qui est-ce qu'il éduque? Sa mère. Et il s'est laissé éduquer par Marie. C'est pourquoi je vous en supplie, pensez un peu à la façon dont Marie a éduqué ce fils éternel, mais qui avait pris un corps, qui était un enfant. Elle lui a appris à jouer avec d'autres enfants, à partager ce qu'il pouvait avoir comme jouet. À lui enseigner les Écritures. Oh, si vous vouliez comprendre cela. Il s'est laissé éduquer. Et vous ne voulez pas vous laisser éduquer par vos parents? Jésus s'est laissé éduquer par Marie. En tant qu'homme. Puis après, quand il est devenu homme, sa fréquentation avec les hommes, vous croyez que c'était agréable pour lui de vivre avec Pierre, Jacques et Jean, où ils étaient les plus intimes? Mais il y en avait d'autres. C'était des gens souvent grossiers, qui pensaient qu'à eux-mêmes, à savoir lequel, comme on l'a vu ce soir, serait le plus grand. Ils étaient toujours centrés sur eux-mêmes. Puis il les a fréquentés. Puis il a fréquenté les prostituées, les pécheurs. Mais il était toujours le saint de Dieu. Et sa passion, voilà encore un degré de son abaissement, c'est qu'il pensait toujours aux autres. Il portait les maladies des autres. Et il les guérissait. Puis sa mort, cette crucifixion que Paul a dépeinte aux Galates. Puis, non seulement la crucifixion, quand Jésus a baissé la tête, après avoir tout souffert, il a été descendu de la croix et mis dans le sépulcre. Les 7 degrés de l'abaissement du Seigneur. Mais il est ressuscité. Et c'est avec lui, le vivant, que vous devez avoir affaire pour le mariage, pour les fiançailles, et qui peut vous aider à respecter l'autre jusqu'au moment du mariage. Et ce que nous disons, c'est que la chasteté avant le mariage, tant pour la jeune fille que pour le jeune homme, c'est une preuve de fidélité que l'on donne pour le futur. Parce que dans le mariage, eh bien, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir la relation sexuelle. Et si on a pu s'éduquer avant, eh bien, le Seigneur peut nous permettre de traverser toutes les phases les plus difficiles de la vie en restant fidèle à son épouse et fidèle à sa parole qu'on a prononcée devant Dieu et devant les autres. Nous voulons prier. Ô Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que nous savons que si nous suivons ta parole, tu nous donneras ta bénédiction et tu nous permettras, si nous devons nous marier, d'avoir un foyer qui te glorifie, qui ressemble vraiment à la maison du Père où nous serons un jour accueillis. Ô Dieu, parle à nos cœurs, donne-nous de comprendre que si nous sommes à toi, nous avons à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni agir comme le monde, mais à être dans ta dépendance totale. Et nous osons tout te demander, nous osons prier pour que tu mettes devant les jeunes filles l'homme de ton choix, ou que tu mettes devant les jeunes gens la fille que tu leur destines, car tu n'es pas l'auteur des mariages malheureux. Et tu ne veux pas le mariage avec la perspective d'un divorce. C'est toi qui sais si nous nous correspondons aujourd'hui. C'est toi qui sais si nous nous correspondrons dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, après 38 ans, si c'est possible encore d'être ensemble et d'être heureux. Bénis-nous de ta bénédiction et que nous revenions à ta parole et que cette parole ne soit plus simplement dans les couvertures de la Bible, mais dans nos cœurs. Et que ton esprit nous rappelle les vérités que nous devons connaître pour que dans la pratique, nous sachions marcher dans l'empreinte de tes pas. Et tout cela pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit que nous ne voulons pas contrister. Amen.